Ses yeux m'enchantaient. Je sentais même qu'il me protégeait. Un dimanche matin, en plein cœur de l'hiver, je me suis réveillé très tôt. Sans attendre, j'ai enfilé mes vêtements, tout excité de voir ma ville recouverte par la neige toute fraîche. Lorsque je suis arrivé à hauteur du coupe-vent en genévrier qui protégeait la porte arrière de notre maison, j'ai repéré de petites empreintes de pas sombres dans la neige. Deux traces devant notre entrée principale, dirigées précisément dans la direction de mon village. De toute évidence, il s'agissait de chaussures à la semelle dure et non des habituels sabots en caoutchouc que nous portions tous durant l'hiver. Mes toutes premières pensées ont été pour la personne qui portait ce type de chaussures. Je la plaignais presque, songeant aux difficultés qu'elle devait avoir en marchant dans la neige avec de simples chaussures d'école. Et ce n'est qu'après un moment que j'ai réalisé ce que ces traces signifiaient. Je me souviens précisément qu'il n'y avait pas d'issue à ce sentier. Le visiteur, mon village, mes animaux, tout semblait s'être volatilisé dans les airs. C'est alors que je me suis précipité vers la maison, en courant et hurlant, accusant mon père d'avoir détruit tout mon petit monde, comme s'il voulait m'infliger une étrange punition que je ne comprenais pas. J'ai encore aujourd'hui du mal à comprendre ce qui s'est réellement passé. J'avais déjà connu des actes de violence et de cruauté avant cet événement, mais jamais on ne m'avait volé quelque chose. Et là, quelqu'un avait pris mes animaux, mon travail, et avec eux, mes petits yeux. Dès ce moment, j'ai commencé à me méfier de tout. Mes créations sont devenues étranges et de plus en plus rares. Aujourd'hui, je me dis que j'ai de la chance d'être en vie, et j'éprouve beaucoup de gratitude d'avoir une pratique spirituelle. Je peux méditer en communauté parce que l'invitation à tuer le Bouddha si jamais nous le croisions sur la route me rassure. Je me sens rassuré par cette exhortation du maître Linji, car elle me rappelle combien questionner les apparences est essentiel à ma survie. Je me souviens que lorsque mes amis de la Shangha ont décidé d'organiser une retraite pour les personnes qui avaient souffert de traumatismes ou d'abus durant l'enfance et qu'ils l'ont intitulé « Guérir l'enfant intérieur », j'ai senti combien ma part extrêmement critique fulminait de rage. Ma rebelle intérieure s'insurgeait, réactivée par l'industrie du développement personnel axée sur l'aide intérieure, ma personne mince intérieure, mon génie intérieur, mon chef cuisinier intérieur. Mais en réalité, j'étais terrorisé. Je me suis pourtant inscrite à cette retraite et j'ai participé activement aux exercices proposés. Je suis même parvenu à commencer une lettre adressée à moi, enfant. Coucou, toi. Je sais que tu n'aimes pas ton nom. Alors comment dois-je t'appeler? C'est ainsi que ma lettre démarrait. J'ai pu écrire longtemps, mais je n'étais pas bien loin dans mon écriture quand j'ai remarqué que la voix changeait. En fait, c'est l'enfant qui m'écrivait. Et tout ce que j'ai pu faire à ce moment a été de pleurer à chaudes larmes. Quand je suis parvenu à m'apaiser et à écouter cet enfant, j'ai pu aller à l'extérieur et faire ce qu'elle me demandait de réaliser. Je me suis alors rendu le long du cours d'eau, et je me suis mise à ramasser des pierres, celles qui étaient lisses, douces et fraîches au toucher. J'aimais la sensation qu'elle laissait dans ma main, et j'ai commencé à les disposer sur le sable. Un peu plus tard, quand la cloche nous invitant au repas du soir a interrompu ma concentration, j'ai débarrassé mes mains de leur sable et des gravillons, et je me suis levé pour contempler ce que j'avais réalisé. Une petite table de pierre était dressée, avec deux assiettes, elles aussi en pierre, empilées grâce à quelques graines provenant d'une plante sur les berges du fleuve. Et de part et d'autre de la table, toujours en pierre, deux chaises, disposées de façon à profiter pleinement de la magnifique vue sur l'eau. Dès l'aube, je me suis à nouveau rendu jusqu'au fleuve. Tout le décor de la salle à manger était toujours là, et dans le sable humide, je pouvais distinguer de petites empreintes. Des daims, des oiseaux, et plusieurs petits mammifères avaient contourné ma table avec grande précaution. En revanche, les graines avaient disparu. Quand je suis retourné au même endroit, un peu plus tard dans la journée, j'ai remarqué que l'eau froide avait changé sa trajectoire. La berge grise paraissait totalement nouvelle, douce et vide. Cette fois, je savais que rien ne pourrait m'être volé. Et tandis que je regagnais le zendo, j'ai remarqué que je parvenais à voir les détails très distinctement, jusqu'à environ 30 centimètres au-dessus du niveau du sol. Je commençais enfin à entrer dans mon chagrin. Mes petits yeux étaient de retour. Que puis-je faire pour t'aider? Récit de Johann Friday. À l'époque, cela faisait près d'un an que ma mère était extrêmement malade. Hospitalisée à 8 reprises au cours de sa maladie, elle ne pouvait plus vivre chez elle et séjournait dans un centre de santé adapté. Quant à mon père, vétéran de la Seconde Guerre mondiale, il avait toujours excellé dans le contrôle de son environnement, étant très doué pour créer les conditions où rien de négatif ne puisse arriver. C'est une personne particulièrement méticuleuse. Pour lui, il est essentiel que tout soit en ordre, sous contrôle. Il a toujours fait un excellent travail pour prendre soin de tout, et il a été remarquable avec ma mère. Mais à l'époque que je relate, ma mère était mourante, et on ne pouvait rien y changer. Cette situation était donc extrêmement douloureuse pour lui. Quand les choses échappent à son contrôle, il essaie encore plus fortement de les maîtriser. Il devient alors impatient, irrité, et sa colère est très perceptible. C'est simplement son énergie d'habitude. Un jour, comme je l'accompagnais dans une de ses cliniques pour rendre visite à maman, il s'est énervé, très en colère contre elle. Il se montrait de plus en plus impatient vis-à-vis de maman. Moi, j'étais assise à côté de lui, et je sentais bien que la rage montait en moi. Habituellement, j'aurais réagi en lui disant « Tais-toi, elle ne peut pas faire autrement ». Mais au lieu de continuer comme par le passé, je me suis arrêté à temps et j'ai simplement respiré. Je sentais que je devais quitter la chambre. Je savais que si je disais ou faisais quoi que ce soit d'autre, je ne ferais qu'aggraver la situation. Je créerais encore plus de souffrance, tant pour moi que pour eux deux. Je me suis donc contenté de dire « Je vais marcher un peu ». Je suis allé dans le parking de la clinique pour pratiquer la marche méditative. J'ai repris contact avec ma respiration et après quelques minutes, j'ai senti le calme revenir. J'ai ainsi pu inviter la colère à remonter en moi. J'ai respiré avec elle et j'ai regardé profondément pour essayer de mieux la comprendre. Les émotions m'ont immédiatement ramené au passé. J'ai compris que ma réaction violente vis-à-vis de mon père était en fait celle de la petite fille de 3 ans que j'avais été quand mon père reportait cette même colère sur moi. Toute cette impatience qu'il montrait aujourd'hui. Et c'était précisément cette petite fille de 3 ans qui, aujourd'hui, se manifestait avec une aussi forte réaction. Voyant cela, j'ai pu prendre grand soin de la petite fille de 3 ans. Je l'ai prise avec tendresse dans les bras et je lui ai dit ce qu'elle souhaitait entendre. Je l'ai rassurée sur le fait que la colère et l'impatience de son papa n'avaient rien à voir avec elle. Je lui ai expliqué qu'elle n'avait encore jamais appris comment se protéger de la colère de papa et éviter de la prendre pour elle, alors que cette rage était en fait uniquement liée à sa souffrance à lui. Cela n'avait rien à voir avec elle personnellement, car il aurait réagi exactement de la même manière avec qui que ce soit d'autre. Grâce à cette nouvelle compréhension, je me suis senti empli de compassion, tant pour moi-même que pour mon père. Je vivais là une mise en pratique très concrète de l'enseignement de Thay. La pleine conscience génère la concentration, et celle-ci mène à la vision profonde. La vision profonde permet la compréhension, dont peut alors émerger la compassion. Pour la plupart, nous avons eu l'habitude de fuir nos sensations toute notre vie, de nous éloigner le plus loin possible de ces émotions qui nous font si peur. L'expérience de cette pratique varie selon les personnes. Mais le simple fait de nous arrêter, de respirer et d'accueillir ce qui se manifeste en nous permet déjà d'initier le processus de transformation, tout en déployant notre capacité à ne plus céder à la peur. Dans mon cas, la colère m'a ramené à l'âge de 3 ans, à cette petite fille que j'ai été et qui a vécu la même expérience que celle que je ressentais à présent. Quand j'ai touché cela, j'ai immédiatement compris que quelque chose en moi avait pu se transformer. Je savais que je pouvais, sans problème, retourner dans la chambre, auprès de ma mère et de mon père. En quittant la chambre, quelque temps auparavant, je percevais mon père comme un ogre. Mais à présent, retournant aux côtés de mes parents, jetant un regard à papa, je ne distinguais plus que sa souffrance. Elle était si intense que c'en était presque trop pour moi. Je percevais à quel point il avait peur, et, en moi, seul subsistait un immense élan de compassion envers lui. Il n'y avait plus rien d'autre que de la compassion, et une seule chose à lui dire. Je suis désolé que tu doives traverser tout cela, papa. Dis-moi ce que je peux faire pour t'aider. Ce qui m'a paru clairement aussi, c'est que tant que je restais coincé dans ma propre souffrance, il était tout à fait impossible que je voie celle des autres. Je ne pouvais pas avoir une vision claire de la situation. Je pouvais juste voir ma propre souffrance. Si je n'avais pas pu m'arrêter et prendre soin de mes si vives émotions, je me serais senti parfaitement satisfaite de ma réaction et me serais sans doute dit que j'agissais tout à fait comme une bonne fille doit le faire envers sa mère, convaincue que je me préoccupais vraiment d'elle. Je me serais persuadé que je faisais tout pour prendre soin d'elle au mieux. Et ma façon de le faire aurait probablement été de dire à mon père de se taire. Si j'avais agi ainsi, c'est le père vivant en moi qui se serait exprimé, réagissant par les critiques et les jugements. Lui-même s'en serait senti encore plus jugé et critiqué, ce qui l'aurait sans doute poussé à être encore pire avec ma mère. En fait, j'aurais créé la situation précise que je cherchais à éviter. Je pratique depuis suffisamment de temps pour savoir quels mots utiliser et de quelle façon les prononcer. J'aurais sans doute pu avoir la bonne réaction tout de suite et éviter de critiquer mon père, sans avoir besoin de quitter la chambre. Mais il est probable aussi que j'aurais gardé un fond de rage en moi, et que, si je m'étais exprimé par ces mêmes mots sans quitter la pièce un moment, la façon dont je les aurais prononcés m'aurait trahi. Mon père aurait sans doute perçu du jugement ou de la critique dans le ton de ma voix, sur l'expression de mon visage ou dans ma gestuelle. C'est grâce à cette expérience que j'ai découvert combien les paroles conscientes sont loin d'être limitées au simple choix des bons mots, mais qu'il s'agit surtout de transformer les mauvaises intentions au creux de mon cœur. Si j'utilise la vision profonde et parviens jusqu'au lieu de compréhension en moi, j'éprouverai de la compassion, tant pour moi que pour la personne avec qui je suis en difficulté. Dès que la souffrance de mon cœur est transformée, les émotions qui subsistent sont la compréhension et l'amour pour l'un et l'autre. Alors peu importe finalement les mots que je prononcerai, car la personne à qui je m'adresserai ressentira l'amour, uniquement l'amour. Les personnes savent quand elles sont aimées, et elles savent aussi quand elles ne le sont pas. Avec l'expérience, j'ai également pu observer que la pratique régulière atténue l'intensité des émotions désagréables qui m'habitent, même si je perçois toujours bien la présence de toutes mes fortes émotions. À présent, je peux dire « Bonjour ma petite colère, mon ami. Te voilà de retour. » Et ensuite, l'émotion disparaît. Quand je prends bien soin de l'enfant blessé en moi, les émotions sont sans doute encore là, mais ma relation à elles est complètement différente. Mes perceptions du monde et des relations que j'entretiens avec les autres sont tout à fait transformées, elles aussi. C'est le miracle de la pleine conscience. Le véritable moi. Récit de Glenn Schneider. Je me souviens d'un après-midi où je repensais à une amitié qui comptait beaucoup pour moi, mais qui avait littéralement volé en éclats, se soldant par un cuisant échec. Je songeais à la douleur de cette rupture, me demandant si je n'allais pas reprendre contact avec cette personne, afin de voir s'il y avait une possibilité d'arranger les choses et de nous réconcilier. Et tandis que je me préparais mentalement à ce qu'elle pourrait dire et à ce que je répondrais à mon tour, je sentis un horrible nœud à l'estomac, quelque chose de l'ordre du rejet. Je me dis que c'était l'après-midi, que j'avais du temps, que j'étais seul à la maison, et que je pouvais m'arrêter un moment pour examiner de plus près ce qu'était cette énergie qui se manifestait en moi. Je me suis donc installé dans le canapé et me suis contenté de concentrer mon esprit sur ce nœud au creux de l'estomac, Et bien vite, dans le coin arrière-gauche de ma tête, un bruit clair et précis a retenti. Flap, flap, flap. J'ai reconnu immédiatement le bruit de la ceinture que mon père avait utilisée pour me frapper les fesses nues quand j'avais environ 6 ans. Je sentais nettement les coups et durant un long moment, je n'ai fait que pleurer, gémir et le supplier d'arrêter. Je revivais totalement ce moment où il me frappait les fesses, ma mère le regardant faire, debout dans la cuisine. C'est d'ailleurs elle qui l'y avait incité, et le petit garçon en moi suppliait « Non, je t'en prie, ne me frappe pas, je serai sage. » Là, assis dans le divan, je me suis demandé si je n'étais pas en train de faire une décompensation psychotique, et, en même temps, comme je sentais que tout cela me soulageait, j'ai laissé l'énergie monter en moi et s'exprimer. Mais ensuite, quand j'ai commencé à me calmer, j'ai perçu dans mon esprit un tunnel sombre qui m'aspirait, et j'ai pris peur. Je me suis dit, « Oh mon grand, voilà que tu vas découvrir que tu as subi des abus, ou quelque chose du genre dont tu ne te souvenais pas. » Mais j'ai décidé d'entrer quand même dans ce tunnel. Et c'est alors que... J'étais un tout jeune garçon dans le poulailler que nous avions chez nous. Et je plaçais ma main sous une poule couvant ses œufs. Je sentais la chaleur de ses plumes moelleuses et les œufs lisses et chauds qu'elle protégeait. Quand j'étais enfant, ma famille habitait à la campagne et nous avions une 50aine de poules et poulets. Nous vendions les œufs et j'apportais mon aide à ma façon, en m'occupant des poules. J'adorais glisser ma main sous une poule et l'y laisser là, au chaud. Ces sensations comptaient parmi les expériences les plus merveilleuses, nourrissantes et vivantes que j'ai connues. Mon regard errait un peu partout et je voyais les bords tranchants et cassants des coquilles d'huîtres dont nous nourrissions les poules. Je distinguais aussi tous les détails de la porte du poulailler que nous fermions chaque nuit afin de les protéger des ratons laveurs et des renards. Plus loin, dans le verger, je pouvais voir la moutarde en pleine floraison avec ses belles teintes de jaune doré. Tandis que j'étais bien installé dans le canapé, cette douce rêverie s'est prolongé une bonne dizaine de minutes. J'étais comme au paradis. Je vivais un beau rêve, retouchant à tous les délices visuels et olfactifs de mon enfance. Les couleurs étaient on ne peut plus brillantes, les formes étaient pures. J'étais conquis. Puis, ce délicieux moment s'est finalement terminé. Mon jeune moi marchait sur le chemin pour regagner la maison, lorsqu'une voix s'est fait entendre dans ma tête. Ils ont mis cela en toi. Grâce à l'aide d'une sœur de la Shangha, qui travaille avec des jeunes incarcérés et en grande difficulté psychique, j'ai commencé à comprendre que ce « ils ont mis cela en toi » voulait dire que d'autres personnes avait fait naître ce traumatisme en moi. Toutes les choses difficiles que je vivais, mais que cela n'était pas mon moi véritable. Mon vrai moi, lui, était le petit garçon qui aimait tant ce qu'il voyait, les couleurs et les formes avec lesquelles il avait grandi. Mais l'horrible énergie que l'on m'avait inoculée avait agi comme une porte d'acier, cadenassant littéralement dans ma mémoire certains des merveilleux moments de mon enfance. J'ai beaucoup de chance d'avoir pu me libérer de cette énergie traumatisante. J'aimerais d'ailleurs pouvoir dire que j'ai pu me défaire totalement de cette souffrance en une seule séance. Mais ce ne fut malheureusement pas le cas. Il m'a fallu plusieurs visites, mais chaque fois, j'ai senti que le poids s'allégeait, jusqu'à ce que ces moments s'apparentent un peu à de simples tâches ménagères. Oh, il serait temps de refaire un bon nettoyage. Le temps et la diligence ont permis que tout s'apaise. Je pense personnellement que la part en nous qui est si facilement blessée est précisément celle qui est capable d'aimer, notre bonté intérieure. Et même si elle est facilement masquée par la souffrance et la douleur, nous portons toujours en nous cette part qui peut accueillir et embrasser tendrement, capable de pleinement savourer les merveilles et la tendresse de ce monde. Cette part qui vit en chacun de nous peut prendre soin de cette beauté si précieuse. Elle peut la partager à cœur ouvert. C'est en tout cas l'expérience que j'ai pu en faire. Simplement aux côtés d'un ami. Récit d'Elmar Vogt. Je me souviens de cette retraite de 3 semaines au village des Pruniers, en juin 2006, où j'ai été tellement malade durant la quasi-totalité du séjour que j'ai dû rester la majeure partie du temps au lit, cloué par une très forte douleur à l'estomac. Je souffrais de terribles diarrhées et je ne mangeais pas grand-chose. Mais tout le monde faisait de son mieux pour m'aider. Tant les moines que les amis laïcs ou mes compagnons de chambre. J'ai d'ailleurs développé une relation très forte avec un de ses amis du dortoir. Il avait emmené avec lui un concertina, sorte de mini-accordéon à boutons, et nous avons très vite remarqué notre passion commune pour le chant. Un soir, alors qu'il était assis dans les champs, chantant et jouant des chansons du folklore américain, je l'ai rejoint et nous avons entonné des chants ensemble à la tombée du jour. Après cette soirée, nous avons pris l'habitude de chanter ensemble chaque fois que nous en avions l'occasion. C'est ainsi qu'a pu se tisser entre nous un lien de très forte amitié et de confiance, et que nous sommes tout naturellement devenus amis. Un matin, à l'approche de la fin de la retraite, j'étais toujours au lit quand mon ami est revenu du petit déjeuner. Il s'est assis sur le bord de mon lit, me demandant comment je me sentais. Ensuite, il m'a proposé d'explorer en méditation cette sensation si douloureuse, logée au creux de mon estomac. Et comme j'étais d'accord, il s'est mis à entonner quelques chansons pour moi. Puis, il a invité la cloche et m'a suggéré de me concentrer uniquement sur les sensations de mon estomac, en laissant passer toutes les pensées, restant juste disponible à tout ce qui pourrait émerger. Il ne m'a pas fallu plus d'une minute pour être à nouveau un petit garçon. J'étais caché au sous-sol, derrière ce qui abritait le charbon, et je criais pour que ma grand-mère disparaisse de notre maison. Je l'ai toujours connue vivant avec nous, depuis ma naissance, bien avant d'ailleurs, puisqu'elle s'est installée dans notre famille quand son mari, le grand-père que je n'ai jamais connu, a été porté disparu lors d'une intervention dans la bataille de Stalingrad sur le front Est en 1942-1943. Enfant, je vivais dans un climat plutôt toxique en raison des tensions que générait sa présence parmi nous. Durant cette méditation, le petit garçon en moi a imploré mon père de m'extraire de cette ambiance-là. Une ou deux minutes plus tard, j'ai senti une larme couler du coin de mon œil. Et mon compagnon de chambre s'en est probablement aperçu, car c'est à ce moment-là qu'il s'est mis à secouer doucement mon avant-bras pour me rassurer. Tout va bien. Laisse juste les émotions s'exprimer. J'ai littéralement fondu en larmes et mes sanglots se sont prolongés ainsi durant un assez long moment. 20 minutes peut-être. J'ai senti combien c'était source de guérison. Quand je me suis calmé, j'ai senti un net soulagement au niveau de l'estomac. Ensuite, nous avons parlé encore et encore de mon enfance et de mon adolescence, de mes parents, abordant même le sujet de nos filles, car nous avons tous les deux une fille d'une bonne vingtaine d'années. Puis, nous avons pris notre repas de midi ensemble, et je lui ai appris une chanson du folklore allemand, Bunt sind schön die Wälder, qui évoque les couleurs des feuilles et des champs à l'automne. À présent, je ressens encore la tension dans l'estomac, mais elle n'est plus pareille depuis cette méditation. Je la vis plutôt maintenant comme le désespoir du petit garçon dans le ventre de sa mère, quand il se sent à nouveau insécurisé. Je vois aussi mon père en moi, papa, qui a été confié à la garde de sa tante alors qu'il n'avait encore que 2 ans. Il n'a d'ailleurs